Les institutions de l'hyperdémocratie. Avant le milieu du XXIe siècle, l'hyperdémocratie commencera à se manifester dans la réalité institutionnelle du monde. On commencera à débattre de la mise en place d'institutions planétaires cohérentes, permettant à l'humanité de ne pas succomber sous les coups de l'hyperempire et d'éviter les ravages de l'hyperconflit. Il ne servirait à rien de vouloir décrire ces institutions futures en détail. Trop de temps s'écoulera avant que leur heure n'advienne. Trop d'orages éclateront, trop de technologies se feront jour. Trop de surprises aussi viendront détourner momentanément le cours de l'histoire. On peut cependant en dessiner les grands traits sans trop risquer de se tromper à partir de l'histoire passée et des deux premières vagues de l'avenir. Ces institutions seront constituées d'un empilement d'organisations locales, nationales, continentales et mondiales. En leur sein, chaque être humain vaudra et influera autant qu'un autre. La ville sera le principal lieu de vie de l'essentiel de l'humanité. Des centaines de villes seront plus peuplées qu'une centaine de pays d'aujourd'hui. Alors que plus des deux tiers des humains y vivront, des sommes gigantesques devront être consacrées à leur infrastructure. La ville sera le cadre des plus importants investissements collectifs et le premier collecteur d'impôts. C'est là que se concentrera l'essentiel de l'action politique à venir. L'urbanisme deviendra une science majeure. L'infrastructure numérique aidera à faire de la ville un lieu de rencontre, d'échange, de vie. Une démocratie participative et associative y associera, par les technologies de l'ubiquité nomade, tous ceux qui y résideront, qui y travailleront, qui en seront les usagers ou qui seront d'une façon ou d'une autre affectés par son devenir. Des quartiers s'érigeront en autogestion. Les États, pour résister aux attaques des marchés, devront se concentrer sur quelques fonctions souveraines: la sécurité, la tranquillité publique, la liberté, la défense de la langue, l'accès de tous, résidents durables ou de passage, aux soins et aux savoirs, le droit à un revenu minimum de formation. Pour remplir équitablement ces fonctions, les États comme les villes seront subventionnés, si nécessaire, par l'échelon continental, voire planétaire. Les frontières s'effaceront. Chacun sera citoyen de plusieurs entités à la fois, et il deviendra possible de défendre ses identités sans vouloir détruire celles du voisin. Les nations réussiront peu à peu à trouver des conditions d'un voisinage apaisé. De nouvelles formes de contrôle démocratique apparaîtront, fondées sur des agences autonomes de notation, surveillant en permanence le travail des élus grâce aux techniques de l'ubiquité nomade et de l'hypersurveillance. Chaque continent ou sous-continent regroupera les démocraties de marché qui s'y trouvent en une union, comme le fait déjà l'Union européenne. Chaque union aura la responsabilité de la monnaie, de la transparence des marchés, de l'harmonisation des conditions sociales, de la protection de l'environnement, de la sécurité intérieure, de la protection sociale, de la santé, de l'éducation, de l'immigration, de la politique étrangère et de la défense de l'espace commun. Elle devra se doter d'un parlement et d'un gouvernement continentaux. Elle devra aussi disposer, comme c'est déjà le cas en Europe, d'une instance de résolution des conflits entre nations du même continent. Un tel avenir devrait en particulier devenir possible au Moyen-Orient, qui devra un jour rassembler toutes les nations, y compris Israël et la Palestine, en une union régionale. L'Union européenne, avant-garde de l'hyperdémocratie, deviendra une nation d'un genre nouveau, allant sans doute un jour jusqu'à la Turquie et la Russie. C'est là que les conditions d'un équilibre entre marché et démocratie seront les mieux réunies. C'est en Europe que commencera l'hyperdémocratie. À l'échelle mondiale, seront créées de nouvelles institutions, dans le prolongement de celles qui existent déjà. L'Organisation des Nations Unies en sera la base. Une constitution de la planète reprendra, en l'élargissant, la charte actuelle des Nations Unies. Elle devra pour cela prendre une dimension supranationale et non plus seulement multilatérale. Son préambule regroupera tous les droits et devoirs de chaque humain à l'égard de la nature, des autres humains et de la vie. Il inclura des droits nouveaux non prévus par la charte actuelle. Il prévoira en particulier le nouveau droit, essentiel, fondateur, à une enfance, ce qui impliquera un devoir de parenté. D'autres droits et devoirs imposeront la protection de la vie, de la nature, de la diversité et fixeront des frontières infranchissables au marché. L'Assemblée générale de l'ONU, où se retrouveront des États de plus en plus nombreux, sera progressivement épaulée, d'abord par une deuxième chambre, où des élus au suffrage universel représenteront chacun un nombre égal d'êtres humains, puis par une troisième, où se retrouveront les entreprises marchandes et relationnelles. Ce Parlement planétaire lèvera des impôts planétaires, dont l'assiette sera composée du PIB de chaque pays, de ses dépenses en armement et de ses émissions de gaz à effet de serre. Le Conseil de sécurité de l'ONU fusionnera avec le G8 et s'élargira à quelques-uns des 11, dont l'Inde, le Brésil et l'Indonésie. Il sera ensuite composé des seuls représentants des unions continentales. Le Conseil de sécurité servira d'organe de contrôle d'un gouvernement planétaire constitué autour de l'actuel secrétaire général. Ce gouvernement planétaire consacrera à la protection de l'humanité beaucoup plus de ressources que ne le font aujourd'hui tous les gouvernements de la planète. Il dictera des normes sociales, telles le principe du meilleur régime social mondial, qu'il imposera progressivement à l'échelle du globe à toutes les entreprises. Il se donnera les moyens de les faire respecter. Les institutions financières internationales, comme l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation internationale du travail, seront placées directement sous sa tutelle, pour ne plus obéir seulement aux instructions des pays les plus riches. Ce gouvernement planétaire se donnera les moyens militaires de lutter contre les mafias, le trafic de drogue, l'exploitation sexuelle, l'esclavage, le dérèglement climatique, le déversement des déchets et les attaques accidentelles, terroristes ou militaires, par des nanorobots et autres pathogènes autorépliquants qui pourraient détruire la biomasse, une gelée bleue, arme nanotechnologique absolue, entre les seules mains du gouvernement planétaire pour combattre la gelée grise. Une force planétaire d'assistance et de sécurité, dotée des meilleurs équipements dont il a été question plus haut, protégera l'environnement et luttera contre les pirates. Progressivement, pour appuyer ce gouvernement mondial, de nouvelles instances de contrôle, de défense et de régulation se mettront en place à partir des instances de gouvernance de l'hyperempire et de celles des entreprises relationnelles. Un tribunal pénal planétaire assurera la compatibilité des jurisprudences élaborées dans chaque continent et jugera les principaux pirates. Une agence mondiale de l'eau protégera sa disponibilité. Une instance universelle des marchés contrôlera les monopoles et le respect du droit du travail. Une autre instance contrôlera la qualité des produits de consommation, en particulier alimentaires. Une autre contrôlera les principales compagnies d'assurance, les autres organes de gouvernance et les très grandes entreprises essentielles à la vie. Cette instance aura les moyens de lutter contre l'économie pirate et de défendre la propriété intellectuelle et matérielle. Une banque centrale assurera la stabilité des principales monnaies, puis gérera une monnaie unique. Elle exclura de la communauté financière internationale toute institution permettant de blanchir l'argent de la drogue. Une banque de développement planétaire financera les grandes infrastructures des villes et des pays qui respecteront la constitution planétaire. Elle soutiendra les pays qui convertiront leur économie dépendant de la drogue ou du crime organisé et les confortera dans leur lutte contre les pirates. une institution spécifique aidera à structurer les entreprises relationnelles et à vérifier qu'elles ne sont pas le masque d'institutions pirates ou terroristes. Une autre institution planétaire aidera en particulier à développer la microfinance. Les sièges de ces institutions n'auront évidemment pas à être tous installés dans le même lieu, même s'il a été question plus haut de Jérusalem pour certaines d'entre elles. Leur existence pourra être aussi nomade que l'hyper-empire qu'elles auront la charge d'équilibrer. La place du marché dans l'hyper-démocratie. Marché et démocratie retrouveront ainsi peu à peu un équilibre planétaire. D'une part, les institutions de l'hyper-démocratie permettront au marché de fonctionner de façon efficace et d'éviter le sous-emploi des capacités de production en lançant des grands travaux mondiaux d'infrastructure urbaine, d'énergie et de numérique. D'autre part, régulé et mondialisé, le marché ne cherchera plus à pénétrer le sanctuaire de la démocratie. Il trouvera même son intérêt à développer des outils au service de la démocratie, à créer des infrastructures urbaines, des produits contre la pollution, contre l'obésité et pour les plus pauvres. De nouvelles technologies rendront ainsi possible une nouvelle abondance en énergie et en eau dans un environnement protégé et un climat apaisé. Des architectes et des urbanistes inventeront des villes à taille humaine. Des artistes feront prendre conscience que la beauté du monde mérite qu'on la protège et développe. Le microcrédit dominera le système bancaire. Des entreprises relationnelles marchandes, c'est-à-dire ayant le profit pour finalité et la relation comme produit, fourniront des services personnels, de la santé à l'éducation en passant par les loisirs. Des services à domicile, garde d'enfants, aide aux populations en difficulté. Les marchés réorienteront le progrès technique vers les industries de la santé, en particulier alimentaires, du savoir et de l'environnement. Ils valoriseront plus le temps vécu que le temps stocké, les services plus que les produits industriels. Ils rendront gratuit le spectacle du temps stocké et payant le spectacle vivant. Le cinéma deviendra gratuit et les cinéphiles paieront pour voir les mêmes comédiens sur une scène de théâtre. Les fichiers musicaux seront gratuits et les mélomanes paieront pour assister aux concerts. Les livres et journaux deviendront gratuits, et les lecteurs paieront les éditeurs pour entendre des conférences et débattre avec les auteurs. La gratuité s'étendra à tous les domaines essentiels à la vie. L'économie relationnelle et l'économie de marché auront chacune intérêt au succès de l'autre. L'économie relationnelle aura intérêt à ce que le marché soit le plus efficace possible. Réciproquement, l'efficacité du marché dépendra de manière cruciale du climat social engendré par l'économie relationnelle. Enfin, les grandes entreprises du marché seront de plus en plus jugées par leurs actionnaires eux-mêmes sur leur capacité à servir l'intérêt général, à promouvoir les activités relationnelles. Le résultat collectif de l'hyperdémocratie, le bien commun dont l'intelligence universelle. L'hyperdémocratie développera un bien commun qui créera de l'intelligence collective. Le bien commun de l'humanité, finalité collective de l'hyperdémocratie, ne sera ni la grandeur, ni la richesse, ni même le bonheur, mais la protection de l'ensemble des éléments qui rendent possible et digne la vie. Climat, air, eau, liberté, démocratie, culture, langue, savoir. Ce bien commun sera comme une bibliothèque à maintenir, un parc naturel, à transmettre après l'avoir cultivé et enrichi sans l'avoir modifié de façon irréversible. La façon dont la Namibie entretient sa faune, dont la France entretient ses forêts ou dont certains peuples protègent leur culture, donne une idée de ce que pourrait être une conception avancée du bien commun. Celui-ci ne saurait être ni un enjeu du marché, ni la propriété des États, ni un bien multilatéral. Ce devra être un bien supranational. L'essentiel de la dimension intellectuelle du bien commun sera constitué par une intelligence universelle propre à l'espèce humaine, différente de la somme des intelligences des humains. L'intelligence collective d'un groupe n'est pas la somme des savoirs de ses membres, ni même la somme de leurs aptitudes à penser. C'est une intelligence propre, qui pense autrement que chacun des membres du groupe. Ainsi, un réseau neuronal fait de cellules devient une machine à apprendre. Un réseau téléphonique remplit d'autres fonctions que celles de chacun des centraux. Un ordinateur réfléchit différemment de chaque microprocesseur. Une ville est un être distinct de chacun de ses habitants. Un orchestre est autre chose que l'addition de ses musiciens. Un spectacle d'une autre nature que le rôle tenu par chacun des acteurs. Les résultats d'une recherche valent plus que l'apport de chacun des chercheurs qui l'amènent. Toute intelligence collective est le résultat de ponts, de liens entre les intelligences individuelles nécessaires pour créer du neuf. L'humanité crée de la même façon une intelligence collective, universelle, distincte de la somme des intelligences particulières des êtres qui la composent, et distincte des intelligences collectives des groupes ou des nations. La finalité de cette intelligence universelle ne sera pas d'ordre utilitaire. Elle sera inconnaissable, gratuite. Elle pourra se traduire en diverses œuvres. D'innombrables réseaux coopératifs planétaires permettront de créer des corpus de savoir et des œuvres d'art universelles, transcendant les savoirs et les œuvres de tous ceux qui y auront participé. Cette intelligence universelle existe en fait, à l'état embryonnaire, depuis toujours. Elle a permis à l'humanité de survivre en s'adaptant. Elle se développe de plus en plus vite avec les nouvelles technologies. Elle créera un rapport tout à fait nouveau à la propriété intellectuelle, qui ne pourra plus être absolue et devra être partagée avec l'ensemble de l'humanité nécessaire à la créativité de chacun. Par exemple, les développements de logiciels libres formeront une œuvre de l'intelligence universelle. De même, alors que l'encyclopédie Wikipédia n'est pour l'heure que l'agrégat des intelligences de ses auteurs, on y voit déjà naître par le travail de tous un résultat collectif différent de ce que chacun a voulu y mettre. L'histoire poussera ainsi à l'intégration croissante des intelligences collectives en une intelligence universelle. Elle sera aussi dotée d'une mémoire collective qui conservera et accumulera son savoir. Par sa nature, elle durera au moins aussi longtemps que l'humanité. L'intelligence universelle pourra même concevoir un jour des machines à son propre service, défendant le bien commun pour lui-même. L'intelligence universelle pourra ensuite faire émerger une intelligence de l'espèce, une hyper-intelligence, qui agira en fonction de son propre intérêt, qui pourra différer de l'intérêt de l'intelligence universelle d'une génération d'êtres humains. Enfin, au degré ultime d'évolution, pourra naître, et peut-être déjà née, une hyper-intelligence du vivant dont l'humanité n'est qu'une infime composante. Cette hyper-intelligence du vivant n'agirait alors plus en fonction du seul intérêt de l'espèce humaine. L'histoire singulière de l'Homo sapiens sapiens trouverait là son terme, non pas dans l'anéantissement, comme dans les deux premières vagues de l'avenir, mais bel et bien dans le dépassement. Le résultat individuel de l'hyperdémocratie, les biens essentiels, dont le bon temps. L'hyperdémocratie ne réalisera pas que des objectifs collectifs. Elle permettra aussi à chaque être humain de réaliser des objectifs personnels inaccessibles par le seul marché, avoir accès à des biens essentiels, en particulier à du bon temps. J'appelle ici biens essentiels ceux auxquels chaque être humain doit avoir droit pour mener une vie digne, pour participer au bien commun. Parmi ces biens essentiels, l'accès au savoir, au logement, à la nourriture, aux soins, au travail, à l'eau, à l'air, à la sécurité, à la liberté, à l'équité, à la dignité, au réseau, à l'enfance, au respect, au droit de quitter un lieu ou d'y rester, à la compassion, à la solitude, de vivre des passions simultanées, des sincérités parallèles, d'être entouré dans ses derniers jours. Cela conduira à supprimer toute punition infamante, violente ou d'enfermement. Le principal bien essentiel sera donc l'accès au bon temps. Un temps où chacun vivra non pas le spectacle de la vie des autres, mais la réalité de la sienne propre. Chacun y aura la possibilité de choisir son modèle de réussite, d'épanouir ses talents, y compris ceux que chacun ne se connaît pas encore. Prendre du bon temps signifiera alors vivre libre, longtemps et jeune, et non pas, comme dans l'ordre marchand, se hâter de profiter. Ces deux projets, individuels et collectifs, de l'hyperdémocratie, se nourriront l'un l'autre. L'intelligence universelle de l'humanité augmentera avec le bon temps dont disposera chacun, et réciproquement, l'intelligence universelle créera les conditions du bon temps pour chacun. Il ne pourra y avoir d'hyperdémocratie qu'entre personnes ayant accès aux biens essentiels. Le bien commun de l'humanité sera d'autant plus élevé qu'un nombre plus élevé d'humains auront accès aux biens essentiels. Comme un centre de recherche a intérêt à ce que ses chercheurs trouvent, comme les locuteurs d'une langue ont intérêt à ce que ceux qui la parlent soient le plus nombreux possible, comme une famille a intérêt à voir ses membres le plus heureux possible, chaque être humain aura intérêt à ce que les autres soient en pleine possession des moyens de leur dignité et de leur liberté, donc en bonne santé et bien formé. L'humanité aura intérêt à ce que chaque humain soit heureux de vivre. L'altruisme deviendra l'intérêt de chacun. Être transhumain deviendra raisonnable. Le détournement de l'hyperdémocratie. Pendant de longues décennies, l'hyper-empire tentera d'empêcher l'hyper-démocratie de naître. Certains maîtres du marché, hyper-nomades pour la plupart, chercheront à en saper les valeurs, à empêcher d'en laisser naître les institutions et à annihiler ses acteurs. Ils traiteront de traîtres les hyper-nomades transhumains. Ils leur feront peur, tenteront de les corrompre, de les faire changer de camp. Puis, sentant la force de la vague, ils essaieront de commercialiser, dans des entreprises spécialisées, des objets nomades relationnels, robots de compagnie, fraternité virtuelle, jeux en trois dimensions simulant l'altruisme, commerce faussement équitable. Ils vendront ce qu'ils appelleront eux aussi du bon temps, temps de vacances ou temps produit par des objets nomades et réplicables en série. Ils mettront sur le marché des autosurveilleurs censés mesurer la capacité relationnelle. Ils inventeront aussi des prothèses relationnelles, puis des clones, frères artificiels, permettant de disposer pour soi de réserves d'organes. Le bonheur du clone sera d'aider le cloné à survivre. Par ailleurs, certains maîtres de mouvements religieux, théologiens, gourous, tentent déjà de récupérer les concepts de l'hyperdémocratie. Ils assiéront leurs fonds de commerce sur la charité, la maîtrise du temps et du sens, la gratuité, la fraternité, l'intelligence universelle, le bon temps, le bien commun. Certains savants expliquent déjà, que l'incapacité à trouver du sens au temps, à se montrer altruiste, est une maladie que des drogues ou des manipulations génétiques de leur invention pourront guérir. Enfin, certains hommes politiques tenteront d'instaurer une dictature plus ou moins planétaire, destinée à faire surgir un homme nouveau, digne de vivre dans l'hyperdémocratie. Ils expliqueront qu'il sera même possible un jour de concevoir des êtres assez maîtres d'eux-mêmes pour être exempts du désir d'accumuler, de gaspiller, de jalouser. Des êtres heureux du bonheur des autres, programmés pour aimer être ce qu'ils sont, débarrassés même de tout désir et de tout égoïsme. En assassinant, évidemment, tous ceux qui, pour des raisons de classe, de religion ou tout autre, ne seront pas dignes de cette nouvelle élite. Je veux croire qu'un jour, bien avant la fin du XXIe siècle, et malgré tant d'obstacles, de précipices vertigineux et de caricatures, l'hyper-empire aura pris assez d'ampleur pour faire percevoir l'unité du monde sans être parvenu à détruire l'identité humaine. Je veux aussi espérer que l'hyper-violence menacera assez fortement l'humanité pour lui faire prendre conscience de la nécessité de changer radicalement d'attitude à l'égard d'elle-même. Je suis encore convaincu que les transhumains seront alors assez nombreux et assez organisés pour contenir la première vague de l'avenir et pour détruire la seconde. Je veux également croire que les dictatures caricaturant l'hyperdémocratie dureront moins longtemps que celles qui ont caricaturé le socialisme. Je veux croire encore que les religions trouveront une façon de se tolérer et de s'enrichir les unes les autres. Je veux croire enfin que l'horreur de l'avenir prédit ici contribuera à le rendre impossible. Si tel est le cas, se dessinera au-delà d'immenses désordres la promesse d'une terre hospitalière pour tous les voyageurs de la vie. D'ici là, auront eu lieu bien des événements, pires et meilleurs que ceux imaginés ici. La beauté aura su héberger et protéger les ultimes étincelles d'humanité. On aura écrit et façonné des chefs-d'œuvre. On aura découvert des concepts. On aura composé des chansons. Surtout, on aura aimé. Et on aimera encore.